Chapitre 6. Conversion d'un avocat incrédule. Le fait que nous allons raconter est l'un des plus saisissants du réveil. Il a été rédigé sous forme de journal par celui-là même qui en a été l'objet. Cette forme permet de suivre les diverses phases du travail de la grâce dans son âme. Il est 6 heures. Les clients et les commis sont retournés tranquillement chez eux et moi je reste seul. Là-bas, dans l'angle, est mon lit sur lequel je vais bientôt me jeter. Demain recommenceront les affaires, comme aujourd'hui, comme tous les jours. Seul, seul. Comment employer ou comment tuer le temps d'ici à l'heure du sommeil? Je vais sortir, je lirai les journaux. Non, j'irai au salon de lecture. Là, je trouverai avec qui parler des nouvelles du jour. Congrès, état de la législature, affaires du Kansas, politique, le grand réveil, qui sait? Mais quel intérêt trouverais-je à parler de ce réveil? J'ai examiné la religion, la Bible, la divinité de Jésus-Christ. Je rejette le tout. Les témoignages sont insuffisants. Ce n'est qu'un ramassis de folie. Il y a bien par-ci par-là de belles paroles dans la Bible. La bonté de Christ est certainement au-dessus de toute louange. Les écrivains de l'Ancien Testament, avec quelque idée confuse d'un Dieu spirituel, mais tout cela est obscur, indistinct. Il fut un temps où je croyais que cette Bible était une révélation de Dieu. J'étais heureux dans mes croyances. Je n'avais point de doute. J'étais plus heureux qu'à présent. Les chrétiens d'aujourd'hui paraissent heureux aussi. Je ne voudrais rien faire qui peut ternir leur bonheur, mais la mort terminera tout cela. Pourtant, je renverserai bien volontiers cette parole de saint Paul. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables des hommes. Car d'après mon expérience, il serait plus vrai de dire que s'il n'y a ni immortalité, ni jugement, ni ciel, ni enfer, ni vie éternelle pour les bons, si toutes les joies de la foi se terminent à la mort, la foi et l'espérance chrétienne sont encore bien préférables au doute, ne serait-ce que pour rendre la vie présente supportable. J'ai là cette vieille lettre anonyme. Je veux la relire aujourd'hui, quoiqu'il y ait 20 ans que je l'ai reçue. Une bonne lettre, après tout. Excellentes intentions. Je la relirai. Mon cher frère en Christ, il m'appelait son frère en Christ. Ah, s'il savait combien je suis loin de l'être aujourd'hui. Il le croyait alors, 17 mars 1838. Qu'est-ce que j'aperçois là sur le pupitre? Tiens, l'annonce d'une réunion rue Green, église du pasteur J.F. Beck. Service religieux chaque soir à 7h30. Viens et nous te ferons du bien. J'ai fort envie d'aller voir. Il y a si longtemps que je ne suis entré dans un lieu de culte. Aurait-il encore l'air raide et de mauvaise humeur comme la dernière fois que je suis allé à la rue? Il n'est encore que 7 heures. Relisons la lettre. Il la relit. Allons, je vais à l'église. J'y passerai aussi bien qu'ailleurs mes 2 heures et ce sera le moment de dormir. M'y voici. Mettons-nous près de la porte. Serais-je de trop par hasard? Voyons, je veux bien être poli. Il chante, prie. Ah, on annonce une réunion de prière. Dois-je m'en aller? Tous sont invités à rester. Ce n'est pas pour moi, bien sûr. C'est égal, je reste. Les directeurs s'en vont vers l'estrade. On prie, on chante, on invite les angoissés à s'approcher. S'il est dans l'assemblée des personnes qui désirent les prières des chrétiens, qu'elles le manifestent en se levant. On ne bouge pas, personne ne se lève. Et comment l'assemblée fait-elle de ne pas se lever tout entière? J'ai bien envie de me lever et de les tancer pour leur stupidité, qui n'a pas besoin des prières des chrétiens quand elles sont aussi sincères. J'ai honte pour ces pauvres pécheurs qui n'osent pas, sans doute, manifester leur désir que l'on prie pour eux. On prie, on chante encore, plusieurs personnes parcourent les couloirs et parlent à des individus. Bien, en voilà un qui se dirige vers moi. Êtes-vous heureux dans votre foi? Je suis heureux de rester ici, pourvu que je ne gêne personne. Êtes-vous membre de quelque église? De l'église épiscopale. Nous sommes bien aises de vous posséder parmi nous. Montez donc un peu plus haut, cela sera plus amical. Si cela peut vous être agréable. Eh bien, m'y voilà, les affaires commencent à m'intéresser. Ces chrétiens semblent y prendre un vif plaisir. Ils emploient bien mieux leur temps ici que dans certaines réunions bruyantes que je connais. On collecte maintenant. Je mets 5 cents, mais je garde mes 2 shillings pour autre chose, et même je me félicite d'avoir résisté. Allons-nous-en. Et ce soir-là, il dormit très bien. Voilà encore 6 heures du soir, et toujours seul. Que vais-je faire? Encore cette annonce de la rue Green. C'est peut-être M qui l'a oubliée. Il devrait la porter ailleurs, elle pourrait faire du bien. Y vais-je encore ce soir? Et cette lettre anonyme, voyons, lisons. Troy, 17 mars 1838. Permettez-moi d'adopter ce mode de communication pour converser avec vous sur la religion et pour vous poser, en toute charité chrétienne, quelques questions précises et directes. Chers frères, êtes-vous heureux dans votre foi, comme vous l'étiez il y a quelques années? Vous n'avez pas oublié sans doute ce temps où vous fréquentiez régulièrement les réunions de prière de l'église de... Eh oui, je m'en souviens. Oh, que j'étais heureux alors! Vous lisiez le livre de Finney sur les réveils. Vous conduisiez la prière dans les assemblées et vous demandiez à Dieu d'amener les pécheurs à la connaissance de l'Évangile. Vous veniez aussi aux associations intimes de prière et je me souviens qu'il me semblait parfois être au ciel. Vous vous rappelez de ce temps où vous vous intéressiez si vivement à l'école du dimanche de Ida Hill, à laquelle par votre influence tant de personnes venaient régulièrement? Ô cher frère, votre voix est silencieuse maintenant sur le sujet du salut des pécheurs. Vous avez abandonné les réunions de prière et vous ne venez plus nous aider dans cette lutte pour sauver les âmes. Cher frère, arrêtez-vous et réfléchissez. Arrêtez-vous, je vous en conjure, et demandez-vous ce que vous faites maintenant pour la cause de Christ. Demandez-vous, est-ce que je fais tout ce que je puis pour mon Dieu? Vivez-vous comme vous aviez promis de vivre lorsque vous vous consacrâtes au service de Dieu? Menez-vous une vie de prière? Êtes-vous désireux de voir les pécheurs trouver le salut? Et les avertissez-vous de fuir la colère à venir? Oh, revenez dans le champ de travail. Revenez vous associer à nos prières pour la conversion des âmes. Considérez votre vie d'autrefois et repentez-vous. Venez de nouveau vous joindre à l'Église et aidez-nous dans l'œuvre du salut. Bientôt nous ne serons plus. Travaillons tandis qu'il est encore jour, car la nuit vient, pendant laquelle l'homme ne peut plus rien faire. Nous avons besoin de vous. Quand ceux qui font profession de religion demeurent froids et inactifs, Dieu ne fait rien. Prenez garde de ne pas lutter contre l'Éternel et de ne pas lui être un obstacle. Prenez garde, de peur que vous ne soyez pour les pécheurs une pierre d'achoppement. Puisse le Seigneur vous amener à réfléchir et à vous repentir, et puissiez-vous faire votre devoir. Telle est l'ardente prière d'un frère en Christ. Bon conseil? Eh bien oui, je pense que j'irai ce soir à l'église. Si je savais que M eût laissé cette annonce-là pour moi, je n'irais pas. Il y en a toute une liasse. Non, il les a oubliés, évidemment. Je vais... Et pourquoi faire? La Bible n'est pas divine. Christ n'est pas Dieu. Dieu est souverain et fera de moi ce qu'il voudra dans ce monde et dans l'autre. À quoi bon? Pourquoi m'en occuperais-je? Et que puis-je changer à cela? Ce n'est pas moi qui me suis fait, ni qui me suis donné la vie. Si l'on m'avait consulté, j'aurais refusé de naître. En tout cas, quand j'irai en enfer, je serai au moins débarrassé d'une chose qui me tourmente les hommes dans ce monde, à savoir la crainte de la mort. S'il faut que j'y habite éternellement, il faudra bien que j'aie une constitution de trempe à durer éternellement, et cela étant, je n'aurai plus peur de cette mort qui fait trembler les plus robustes, cela m'est donc égal. J'ai souvent désiré d'être mort, dommage même que je sois jamais né. Si mon âme est immortelle, elle a dû exister quelque part avant de venir ici, je n'en ai pas conscience, et qui me dit que j'aurai jamais conscience d'une vie future si elle existe? J'ai vu mourir des bêtes, des bœufs, des chevaux, des moutons. J'ai vu mourir des hommes. Après la mort, quelle différence y a-t-il entre eux? Ils pourrissent de même et on les oublie de même. Où est-elle la différence entre l'animal homme et l'animal brute? Il n'y en a aucune, aucune. Mon âme est-elle immortelle? Existera-t-elle toujours? Peut-être, et après? Ce sera une existence purement éthérée, perdue et mêlée avec la masse des existences immatérielles, sans individualité, sans personnalité, sans conscience d'elle-même. Ce sera une existence semblable à mon existence antérieure. Je vais à l'église encore ce soir. Que vont-ils dire? Je ne pourrai jamais être changé. Jamais je n'éprouverai plus d'émotions religieuses. Comment le pourrais-je? Mais j'aime à voir jouir les autres, et il y a là mon meilleur ami, elle. Il est tout confit de piété. Il est heureux, heureux et joyeux au milieu d'un dédale d'affliction à faire perdre la tête à qui que ce soit. Il est pour le moins aussi dénué que moi de ce qui fait le bonheur ici-bas, et pourtant il est toujours content, et moi, toujours misérable. Un temps fut où j'éprouvais quelques-unes de ses joies. La lettre me le rappelle. J'étais plus heureux alors. Alors j'étais sincère dans mes dévotions et je croyais les autres sincères aussi. Comment ai-je perdu tout cela? Oh, que les ténèbres, que de profondes et impénétrables ténèbres recouvrent à jamais l'histoire de ma chute. Dieu la connaît, et lui seul a le droit de la publier. Il m'a pardonné, mais l'homme ne peut me la pardonner, et quand il le voudrait, il ne le pourrait pas. Nul n'aurait assez d'amour et de charité pour le faire. Me voilà de nouveau à l'église, à la même place. Il y a peu de monde. C'est qu'il est de bonne heure. On me presse de nouveau de me rapprocher de l'estrade. Il dit que cela lui ferait plaisir. Il est vraiment bienveillant, ce monsieur. Voilà le culte terminé. Même réunion de prière après. Les gens qui cherchent la vérité viennent, s'approchent de l'estrade, et le pasteur s'agenouille à côté d'un homme âgé. L'Esprit de Dieu est dans cette prière. On aurait dit qu'il parlait de moi. Mon Dieu, aide-moi à la prendre pour mon compte. J'étais assez mal à l'aise pendant un moment et étonné de voir que mon histoire intime fut connue de tous ces gens qui m'étaient étrangers. Revenu chez moi, mécontent, inquiet, fâché, content, agité, me félicitant d'être allé à l'église, les souvenirs du passé se présentent en foule à mon esprit. Ah, où êtes-vous, jours heureux où la religion me rendait joyeux, quoique je fusse bien faible, jours que de longues années d'une incrédulité raisonnée et sincère n'ont pu effacer entièrement, jours que je ne reverrai plus jamais. À d'autres ce bonheur, ils peuvent, eux, se réjouir encore dans les exercices de la piété, mais moi je ne le puis plus, je ne puis croire, je ne puis espérer. Comment pourrais-je me défaire de mon incrédulité, de mes arguments sceptiques, de mes idées sur la Bible? J'ai toujours cru en Dieu, en mon Dieu, à moi qui n'est pas celui des chrétiens. Que dirait S, et G, et M, et H, et B, et d'autres, eux qui ont si souvent admiré la lucidité et la force de mes conclusions? Quelle figure ferait-il à m'entendre les réfuter moi-même et à argumenter en faveur du christianisme? D'ailleurs, peu importe leur jugement. Mais que dirait Christ? Comment pourrais-je lui parler? Ou comment oserais-je parler de lui? Les chrétiens sont vraiment plus heureux que moi. Mais voilà. Le monde à venir sera bien le même pour tous, et tout cela n'est que néant, néant. Les jours et les semaines passaient, et ces pensées ne me quittaient pas. J'arrivais ainsi à cette certaine nuit, à cette nuit d'agonie, d'agonie indicible. Comment en parler? Comment l'écrire? Ces choses ne s'écrivent pas. Je m'en souviens, mais je ne puis en parler ni l'écrire. À peine si je puis me rappeler la centième partie des impressions qui m'assaillaient, me pressaient, s'évanouissaient comme l'éclair pour faire place à d'autres. Était-ce un rêve? Depuis les premiers jours, j'étais retourné régulièrement en réunion. Mes camarades m'en plaisantaient, s'en moquaient. M, le nouveau commis de notre maison, était un homme pieux. C'est lui, je l'ai su plus tard, qui avait laissé exprès ces annonces du culte. J'en étais content, je pensais que je n'étais pas entièrement endurci dans l'incrédulité. J'étais aussi encouragé dans cet espoir par les membres de l'Église qui m'exprimaient souvent leur plaisir de me voir à leur réunion. Plusieurs fois, je m'étais demandé s'il était encore possible que je redevinsse chrétien. Mais non, c'est impossible. B, mon associé, était encore plus incrédule que moi. Peut-être était-ce la vanité qui me faisait découvrir la faiblesse de ses arguments sceptiques. Il me semblait que j'aurais pu les présenter avec plus de force que lui. Comme moi, il était un bien méchant homme. Je pouvais toujours lui fermer la bouche par des arguments chrétiens. Je dis à M qu'il ferait bien de convertir B, que cela lui ferait du bien, car il n'en savait pas assez long pour être incrédule. Il ne connaissait pas assez les Écritures pour l'emporter dans une discussion. M me répondit « C'est justement ce qu'il dit de vous. Il pense que ce qui pourrait vous arriver de mieux, ce serait de devenir pieux. » Je répondis que quant à moi, la chose était impossible. Mais j'ajoutai que si B voulait seulement suivre quelques services religieux, il serait bientôt converti. En assistant aux réunions, j'étais souvent assailli par la tristesse, le doute, l'inquiétude, le désespoir. Un soir, le pasteur entra dans le banc où je me trouvais et dont j'étais le seul occupant. « Faites-moi place, dit-il, et permettez-moi de m'asseoir près de vous. » Je le fis et il s'assit. « Je voudrais connaître l'état de votre esprit, reprit-il. « J'aime assister à vos assemblées, répondis-je. J'espère n'y incommoder personne. » « Êtes-vous heureux dans votre foi ?»« Non, pas comme jadis. »« Appartenez-vous à quelque église ?»« Non, oui, je suis de l'église épiscopale. J'ai été élevé dans cette église et je l'ai fréquentée pendant des années. Maintenant, je ne suis pas chrétien et je ne pense pas pouvoir le devenir. Néanmoins, je suis heureux de venir ici. C'est pour moi un plaisir et si je ne suis pas de trop, j'y reviendrai. Venez, soyez le bienvenu. Nous sommes heureux de vous voir et nous espérons que cela vous fera du bien. Je vous remercie, monsieur. On invite à s'approcher de l'estrade. Il y avait là des personnes qui cherchaient la vérité. J'avais envie d'y aller, mais je ne le fis pas. La réunion terminée, je revins chez moi. Je me retrouve seul dans ma chambre. Mes anciens souvenirs se réveillent. Détresse, angoisse, je ne puis pas prier. Non, inutile à moi d'essayer. Et quelle que soit la joie de la piété, elle est pour d'autres que pour moi. La Bible, elle ne parle pas pour moi. Jésus-Christ, il est répudié, rejeté, crucifié, oui, crucifié, mais pas pour moi. Un temps fut où j'aurais pu avoir part à son sacrifice, mais ce temps est passé. Maintenant, ce ne peut être pour moi. Pour moi, non, non, jamais. Les péchés d'une vie entière, et quel péché, et quelle multitude, tous graves, criants, noirs, damnables. Ô mémoire, mon âme succombe sous ce poids écrasant. Des péchés contre moi-même, contre les hommes, contre Dieu. Péchés horribles comme accumulation, horribles en détail. Des péchés qui grandissent, qui se multiplient quand je les considère. Des péchés, rien que des péchés. Ô Dieu, comme ils se pressent autour de moi. Cette chambre est obscure, mais mon âme l'est bien davantage. Être au lit, être seul, et point de sommeil pour moi. Agonie, agonie. Mais est-ce un rêve? Ou une réalité? Oui, une réalité. Jésus est là, à quelques pas. Satan est ici, à côté de moi, semble-t-il. Prie, prie, me crie une voix. Essaie, essaie de prier. Non, Dieu paraît. Jésus est toujours à la même place, le visage plein d'une solennité effrayante, mais sans trace de colère. Je crois comprendre qu'il voudrait me sauver, mais qu'il ne le peut pas. Son visage est immobile. Satan me dit, il n'y a plus d'espérance. Plus d'espérance pour toi. Je le sens, je le sais, et mon âme est saisie de désespoir. Je regarde vers le Sauveur. Il paraît me sourire et me dire, insensé que tu es. N'en ai-je pas sauvé d'aussi mauvais que toi? Ne doute pas de ma puissance. Quand tu n'auras sérieusement besoin, regarde à moi. Qui? Moi? Oui, toi. Mon œuvre est de sauver les plus grands pécheurs. Tu as pensé et tu as proféré des choses outrageantes contre moi. Et maintenant que tu te sens dans l'angoisse, tu regardes à moi, mais sans te confier en moi, tu ne crois pas que je sois assez puissant pour te faire du bien. Oh, serait-il possible que je puisse être délivré d'un tel fardeau de péché? Des pensées et des souvenirs amers se pressent en foule dans mon esprit. Les heures se passent, j'essaie de me repentir, de croire, de prier, et je ne puis pas. Je suis épuisé, j'essaie de secouer ces préoccupations qui me torturent. Elles renaissent malgré moi. Mais d'où vient donc que je sois tourmenté à ce point? Vaine fantasmagorie que tout cela. Je suis fou, imbécile, pensée horrible. Dormons, je serai mieux demain. Je ferme les yeux et point de sommeil. Je me lève, je me mets à la fenêtre. Ah, il fait jour, je n'ai pas dormi. Que faire? Je ne suis pas malade pourtant. Mon pouls est agité, mais guère plus que de coutume. Ce soir, je retournerai à l'assemblée, à l'estrade même. Oui, à l'estrade. Absurde folie. Je me couche de nouveau et je m'écris en mon cœur. Bien-aimé Sauveur, fais que je dorme. Arrière Satan, je veux, je suis décidé à aller à lui. Je m'éveille. 2 heures se sont passées. Bien-aimé Sauveur, je te remercie. Est-ce que réellement tu peux me sauver? Oh, quelle espérance! Mais est-ce possible? Jésus, aie pitié de moi, oui, de moi. Étrange sensation, sensation impossible à exprimer. Jésus est près de moi. Satan recule, une espérance, une faible espérance commence à poindre dans mon âme. Arrière Satan, que celui qui veut vienne à moi. Je le veux, bien-aimé Sauveur, aide-moi. Et il m'aide en effet, je me sens aidé, je veux croire en Jésus, mon Sauveur. Jésus, aide-moi à te dire cela, Père qui es aux cieux. Aie pitié de mon âme, pour l'amour de Jésus, Esprit du Dieu vivant, dirige-moi, aide-moi, oh aide-moi, oui, moi. Voilà l'heure des affaires. Je suis incapable de travail, je suis trop malheureux. Peut-être cela me passera. J'ai peur que non. Doute, espérance, crainte, et voilà, la journée est presque finie. Il faut que j'aille à la réunion, pas à l'estrade, ce n'est pas nécessaire. Je confesserai mes péchés à Dieu pendant que les autres prieront. Voudront-ils prier pour moi? Ah, s'ils connaissaient mon état, ils ne le voudraient pas. S'ils savaient ce que je suis, ils me mettraient à la porte. Mais je dirai à Dieu, il sait, lui, à quel point je suis corrompu, mais il a pardonné parfois à de bien grands pécheurs. Je veux aller devant l'estrade, pourquoi pas? D'autres ont été bénis en le faisant, et pourquoi ne le serais-je pas aussi? Ils prieront alors pour moi, ou bien s'ils ne le veulent pas, Dieu peut, qui sait, me pardonner quand même. Il a pardonné à d'autres, aux brigands sur la croix, à Pierre qui le reniait avec serment. L'ami, elle, a de l'expérience en ces matières. Je veux aller le voir, je lui dirai tout. Il me connaît, il connaît ma vie. Il ne croira pas un mot de ce que je vais lui dire, il pensera que je fais semblant. Et qui ne le penserait, connaissant ce que j'ai été? Aucun de mes amis ne voudra croire que je puisse me repentir et être sauvé. Je ne saurais leur en vouloir. À leur place, je ne le croirais pas moi-même. Quant à moi, j'ose à peine espérer que cela soit encore possible. Je veux voir elle. Mais à quoi bon? Il va dire que je suis ivre et que je ne suis pas dans mon bon sens. Et il me grondera. C'est égal, vivez. J'ai besoin de ses conseils. Je vais chez lui. Peut-être est-il sorti. S'il pouvait être absent, que va-t-il dire? Bah, je retourne chez moi, je ne veux pas jouer ce rôle ridicule. Dans quelques instants, ces tristes impressions seront passées, mais j'aurai honte ensuite de les avoir subies. Je reviens, je retourne. Décidément, en me voyant, les gens vont croire que je deviens fou. Allons, tant pis. Ô Dieu, aide-moi. Je crois que j'ai prié. Ai-je pensé à ce que je disais? Voyons, prions encore. Et me voici dans la chambre de L. Il est seul. Bonjour. Eh bien, c'est... qu'avez-vous donc? Je ne sais. Ah, des larmes. Mais serait-ce celle de la repentance? Oh, que je voudrais le penser. Je ne puis lui répondre. Venez, mettons-nous à genoux et prions. Et il priait. Il priait pour moi. Maintenant, dit-il, à votre tour, priez pour vous-même. J'entendis ma propre voix disant, Dieu, aie pitié. Et à ce moment même, Dieu eut pitié. Je l'ai senti. Je raconte à elle tout ce qui se passe en moi, mes doutes, mes angoisses et mes résolutions. Tout cela est très bon, allez et faites-le de suite. J'en prends l'engagement et je me sens bien heureux. Peut-être y eut-il des larmes, mais c'était celle de la reconnaissance. Je cours de là vers l'église, je veux raconter aux frères ce que le Seigneur a fait à mon âme et les remercier de leurs prières. Je veux confesser devant eux mon Sauveur et demander avec eux son secours. Je suis dans l'église. Le sermon est fini. Les frères vont vers l'estrade. On chante. Les pécheurs sont invités à s'approcher. Je me lève pour parler. Je ne puis dire un mot. Une voix semble me crier « À l'estrade! À l'estrade !» Je vais. Je me mets à genoux. Ils chantent. Ils prient. Le ciel semble être de bronze sur ma tête. Point de Dieu. Point de Sauveur. Le temps passe. J'entends des sons. Ils s'éloignent, s'affaiblissent. Je n'entends plus rien, je n'ai plus conscience de ma vie. Puis je sens une douleur vive, à la tête, aux mains, aux pieds, par tout le corps. Une douleur semblable à celle que j'éprouvais une fois en me réveillant d'un long évanouissement. Je crois entendre une musique, c'est la voix de M qui prie. « Ô mon Sauveur !» dit cette voix. Et il me semble voir Jésus à ma droite. Oui, Jésus me souriant d'un sourire plein d'amour. À cette vue, mon âme se remplit d'une joie ineffable, littéralement ineffable et triomphante. Je suis debout au milieu de mes frères, devant l'estrade, leur allégresse éclate en action de grâce, et mon cœur déborde tellement que je ne cesse de bénir Dieu, de bénir mes frères, et que je ne puis dire autre chose. Quand je me reporte à cette heure d'agonie suprême et de délivrance, avec quelle émotion profonde je répète ces paroles de l'une de nos hymnes, aucune langue ne redira jamais la douce paix et la consolante joie d'une âme qui aime de son premier amour. Depuis lors et jusqu'à ce jour, par la grâce de Dieu, je n'ai cessé de me réjouir avec gratitude dans la ferme et bienheureuse assurance que Dieu veut et peut sauver à plein quiconque recourt à lui par Jésus-Christ mon Sauveur. Je sais que mon Sauveur est vivant, je sais que c'est par amour pour lui que Dieu m'a pardonné et je me réjouis chaque jour dans l'assurance que je serai éternellement heureux. Et pour qu'il en soit ainsi, je ne cesserai d'implorer le secours et la grâce de l'Esprit-Saint. Nous ajouterons que l'auteur de ce récit a marché depuis ce moment d'un pas ferme dans la voie de la fidélité chrétienne. 2 mois après le terme de cette histoire, il se trouvait à une réunion de prière à l'hôtel du Globe, et quoique bon nombre de pasteurs fussent présents, on lui demanda de diriger le service. ce qu'il fit de la manière la plus simple et la plus édifiante, avec une modestie et une humilité qui frappèrent tous les assistants. Il lut, après le chant, certains passages des Écritures qu'il se plaisait jadis à contester et qui décrivent l'œuvre médiatrice du Seigneur. Comme il accentuait ses paroles, comme il comprenait bien la pensée de l'auteur inspiré, les vibrations de sa voix accusaient l'émotion de son âme. Après cela vint une prière qu'il adressait directement au Seigneur en sa qualité de Dieu Sauveur, lui donnant les noms de conseiller, d'admirable, de prince de la paix et de chef suprême de l'Église. Il ne se lassait pas d'énumérer avec une effusion de joie et de gratitude inénarrable tous ces mêmes attributs glorieux de Jésus-Christ que plusieurs des assistants lui avaient bien souvent entendu nier.